Donc, nous sommes ici avec Claire Johnson, qui est professeure adjointe à l'École des hautes études publiques de l'Université de Moncton et aussi chercheuse, justement, pour le réseau de santé et vitalité. Claire, comment allez-vous?
Ça va bien, merci.
Nous sommes ici, justement, pour parler de votre étude qui tient compte un peu des besoins des personnes LGBTQ+, dans la formation en médecine. Est-ce que tu peux me parler un peu du développement de votre étude?
Oui, tout à fait. Ça fait que ceci, c'est une initiative qui découle du réseau de santé et vitalité, qui voulaient justement regarder leurs politiques et procédures au sein du réseau pour vérifier puis faire certain qu'ils étaient inclusifs. Puis inclusifs en particulier avec la population de LGBTQIA+, afin de s'assurer qu'ils étaient en mesure de répondre à leurs besoins de santé. Ça fait qu'ils nous ont demandé de faire une recension des écrits pour voir c'est quoi qui était la littérature qui existait sur le sujet. Puis, c'est là où on s'est rendu compte qu'il existe des inéquités en santé assez importantes pour cette population-là, qui est considérée vulnérable. Alors, c'est de là où découle notre article, qui est la recension des écrits, puis qui va aussi enchaîner sur un autre projet de recherche où on va justement parler avec des médecins, puis des résidents, des étudiants en médecine, pour voir c'est quoi leur niveau de confort à fournir des traitements médicaux à la population de LGBTQIA+.
Et puis, depuis le début de votre recherche, quels ont été les défis? Qu'est-ce que vous avez trouvé un peu plus difficile pour essayer de comprendre justement cette étude-là et cette situation-là?
Ben, ça va être le manque de données. Mm-hmm. Vraiment, je vais te le dire, Mathieu, il y avait pas mal de recherches au niveau des personnes homosexuelles puis des personnes bisexuelles. Mais par rapport aux personnes transgenres, il existe très peu de données. Ça fait que ça nous a donné un défi parce qu'il faut assez arriver à des conclusions ou justement de faire des recommandations alors qu'il y a très peu de données. Ça fait, je dirais, ça c'est un défi, mais c'est aussi un bon problème pour les chercheurs parce que justement, lorsqu'il manque des données dans certains domaines comme celui-là, c'est justement là où ce que ça donne la place pour développer des beaux projets de recherche.
Et puis, votre projet d'étude est évidemment pour essayer d'un peu combler hein, les problèmes de la communauté LGBTQ+. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Qu'est-ce que ces personnes-là souffrent de qui nécessitent un peu plus l'attention des médecins?
OK, tout à fait. Par rapport à la prévalence des problèmes de santé mentale, par exemple, on sait que la population à minorité sexuelle ou minorité de genre est beaucoup plus a beaucoup plus une prévalence élevée pour la dépression, l'anxiété, puis les idées suicidaires. Puis ça peut même aussi représenter ou découler à des problèmes de santé un petit peu plus sérieux, si vous voulez. Bien, les problèmes de santé mentale sont sérieux aussi. J'aime pas dire ça de même, mais par exemple, on voit que chez cette population, il y a beaucoup plus de gens qui vont souffrir de certains types de cancers, par exemple, aussi au niveau de l'arthrite, puis l'obésité, puis le surpoids. Ça fait qu'on voit que les inéquités en santé sont quand même assez flagrantes en cette population-là, la population de LGBTQIA+, et la population générale. Puis en plus d'avoir des différences prévalences en termes de maladies ou de conditions médicales, on sait aussi qu'il existe des inéquités par rapport à l'accès aux soins, puis aussi au niveau de la qualité des services reçus. Parce que ce qui arrive, nos soins sont vraiment organisés pour répondre aux besoins de la population majoritaire. Puis la population majoritaire, elle est cis, puis elle est hétérosexuelle. Ça veut dire que les cis, ça veut dire que le genre et le sexe à la naissance coïncident. Il n'y a pas de différence entre les deux. Puis hétérosexuel, ben, ça veut dire un couple entre hommes et femmes. Ça fait que la plupart des soins sont vraiment organisés en fonction de ces besoins-là. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quelle population minoritaire. À moins qu'on fait un effort ou un exprès ou vraiment qu'on se penche vers les besoins particuliers d'une population minoritaire, ben, cette population-là va être comme presque automatiquement mal servie parce que les besoins sont vraiment en fonction des besoins majoritaires.
Certainement, et j'assume aussi qu'avec ça, il vient le fait que il faut que les médecins s'ajustent, mais à quoi il faut qu'ils s'ajustent justement pour combler les besoins de la communauté LGBTQIA+ dans leur formation en médecine?
Ben, faut être capable de voir les particularités que ces personnes-là vont vivre, par exemple. Puis, à mon avis, c'est vraiment d'avoir un dialogue ouvert, puis d'être à l'écoute des besoins. Mm-hmm. Puis, c'est là où que je trouve que c'est très pertinent. Puis ça, c'est pertinent autant au niveau de la santé que de l'éducation, par exemple. C'est super important de donner les outils aux gens qui se sentent autonomes puis capables de naviguer eux-mêmes le système. Ça fait que selon moi, c'est vraiment d'être capable d'identifier comme, oui, c'est certain au point de vue physiologique, il va y avoir des différences au niveau hormonal ou le côté plus médical de la chose, mais selon moi, c'est vraiment d'être capable d'avoir un dialogue vraiment ouvert, transparent et honnête avec la population, puis d'être à l'écoute de leurs besoins particuliers.
Oui, et puis j'assume aussi avec ça que il faudra qu'ils changent un peu peut-être leur horaire de comment ils vont fonctionner justement pour leur formation en médecine. Selon toi, c'est quoi la meilleure option pour instruire un peu plus les personnes qui vont aller étudier en médecine pour les sensibiliser à cette situation-là?
Excellente question. Ben, selon moi, c'est vraiment d'inclure les questions des besoins médicaux particuliers pour n'importe quelle population minoritaire vraiment dans la formation puis dans les curriculums. Puis vraiment d'avoir une sensibilité ou de vraiment avoir comme des chapitres ou des séances ou des sessions dédiées uniquement à ça. Puis là, je vais m'expliquer. Parce qu'on a fait un beau travail par rapport à la discrimination explicite. Puis ça veut dire quand que les gens sont vraiment discriminatoires puis de façon comme très évidente, presque comme vulgaire ou violent. On peut penser à comme des blagues ou des farces qui sont vraiment déplacées ou de la violence physique ou verbale. Ça, c'est de la discrimination explicite. Puis ça, on a fait du chemin. Vraiment, là, on s'est beaucoup amélioré par rapport à ça. Mais il existe encore des biais implicites, inconscients. Puis ceux-là sont beaucoup plus difficiles à cibler, à nuancer puis à corriger. Puis vraiment, là, on demande aux gens qui étudient en médecine, puis vraiment en médecine, puis n'importe quelle profession de la santé, puis même vraiment n'importe quel professionnel partout au niveau sociétal, on devrait vraiment avoir une réflexion par rapport à nos propres biais cognitifs, comme nos propres biais inconscients. Puis ça, c'est comme des fois des vieilles idées ou des vieilles affaires qu'on n'est même pas tout à fait conscient qu'ils sont là, mais ils existent. Ça fait qu'il faut vraiment être capable de les explorer puis faire certain que ces biais cognitifs-là, les biais inconscients, sont pas en train d'influencer la façon qu'on livre des services de santé, par exemple.
Donc, vous avez mentionné surtout dans une entrevue avec Radio-Canada que l'un des plus grands défis pour vous, c'était surtout les idées suicidaires qu'avaient les membres de la communauté de LGBTQ+. Est-ce que tu peux plus m'en parler aussi par rapport à votre étude? Pourquoi ce sujet-là était si important pour vous dans cette situation-là?
Ben, par rapport à l'étude, les données étaient vraiment flagrantes, où ce que les idées suicidaires étaient beaucoup plus élevées dans la population de LGBTQIS+. Puis, attends, je peux-tu reprendre? C'est même pas ça, c'est même pas...
Bien sûr.
J'ai assez répété ça, cet acronyme-là tout le temps. Là. Oh my God!
Bon, ouais, c'est long, hein, de LGBTQIA+. C'est pour ça que je ne dis pas juste communauté LGBTQ+, mais je comprends que le vrai terme scientifique, c'est...
Ouais, j'essaie d'être comme vraiment correct. Là, parce
je
que
comprends.
C'est
les enjeux pour toi, c'est...
Je peux reprendre.
Bien sûr.
OK. Les idées suicidaires, pour moi, c'était vraiment important parce que les données étaient vraiment évidentes. Où est-ce que les idées suicidaires étaient comme 4, 5, 6, 7 fois plus élevées dans la population, surtout transgenre. Ça avait l'air d'être particulièrement fragile par rapport à ça. Aussi à la population bisexuelle puis homosexuelle aussi, où est-ce que c'était 2 ou 3 fois plus que la population générale, mais vraiment la population trans avait l'air vraiment vulnérable. Puis c'était super important pour moi parce que je fais des liens avec ce qui se passe au niveau de la révision de la politique 713 qui se passe dans les écoles tout de suite. Ça fait, je me dis ici qu'on a déjà des données qui illustrent que la population est déjà plus vulnérable à des idées suicidaires. Ça veut dire que, selon moi, il faut avoir des politiques publiques dans nos écoles qui vont protéger les gens, justement, de ces types de méfaits-là ou de types de défis comme ça. Ça fait que, selon moi, ces données-là sont très, très, très puissantes pour, justement, nous motiver à avoir des politiques comme la politique 713 qui va, justement, protéger la santé mentale de cette population vulnérable.
Oui, 100%. Puis, votre étude, pardon, c'est sur la formation en médecine qui devrait vraiment tenir compte des besoins des personnes LGBTQ+ et de la communauté. Mais est-ce que vous avez découvert que tous les institutions qui, justement, sont instruites des écoles de la médecine, pardon, est-ce qu'il y en a qui essaient d'avoir sont un peu plus ouverts à ça ou est-ce qu'elles sont vraiment tous fermées? Puis il faut vraiment recommencer le cycle et apprendre du début à essayer d'instaurer cette situation-là dans les écoles de médecine?
Il y a des écoles de médecine qui font mieux que d'autres. Selon nos recherches, il y a à peu près 30% des écoles de médecine au Canada puis aux États-Unis qui vont justement avoir une formation spécifique pour la population de LGBTQIA+. Mais 30% c'est quand même assez faible. Ça veut dire qu'il y a quand même 70% qui n'ont pas. Ça fait que je suis encouragée quand même parce que 30% c'est quand même pas si pire. Puis ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ça va permettre aux écoles de médecine qui n'ont pas de justement se tourner vers les facultés de médecine qui l'ont, puis de copier un petit peu leur façon de faire. Ici au Canada, je dirais qu'en Ontario, on a l'air d'être pas mal pionniers par rapport à tout ça. Puis il y a certaines facultés de médecine en Ontario, je dirais qu'ils sont quand même assez avant-gardistes par rapport à ça. Ça fait que pour le Canada, je dirais qu'il y a des universités en Ontario qui pourraient être des bons guides pour le reste de nous. Ça fait vraiment au niveau, les meilleurs, c'est Ontario, puis les moins bons, c'est les provinces maritimes, malheureusement.
Mm-hmm. Et puis, en plus, il faut le mentionner que vous travaillez pour l'Université de Moncton, donc c'est certainement quelque chose qui vous tient à cœur un peu quand même, sachant que les maritimes sont pas nécessairement la meilleure institution en médecine pour le sujet. Mais finalement, pour toi, écoute, vous avez conclu votre étude en mentionnant que il doit y avoir des choses qui se passent au niveau du système de santé canadien, mais qu'est-ce que vous recommandez? C'est quoi? Qu'est-ce qui a conclu votre étude, dans le fond?
Je pense que c'est vraiment d'avoir un dialogue, puis de vraiment ouvrir à la discussion, puis de reconnaître qu'ici, il y a des certaines failles dans notre système où ce qu'on n'adresse pas nécessairement assez bien les besoins de cette communauté-là. Alors, ce serait d'avoir un dialogue, puis justement de reconnaître que il y a des manques, puis de créer un espace où les gens se sentent libres et sécuritaires de parler puis de poser les questions pour justement être capable d'offrir un service qui va être adéquat aux besoins. Ça fait pour moi, c'est ça, le dialogue, puis d'avoir des espaces sécuritaires pour pouvoir discuter. Puis surtout quand on parle des biais inconscients, les biais cognitifs inconscients, c'est pas vraiment des choses qui sont faciles à divulguer puis à parler. Ça fait que je pense que ça serait vraiment une première étape. Puis là, de se tourner vers les universités ou les hôpitaux, les centres de santé en Ontario qui excellent dans le domaine pour justement suivre un petit peu leur exemple ici au Nouveau-Brunswick.
Écoute, merci encore une fois, Claire, pour avoir accepté cet entretien-là. C'était magnifique. J'espère que votre étude va s'en suivre et inciter peut-être, justement, le système de santé canadien à corriger un peu des failles que tu m'as mentionnées. Puis je te souhaite une merveilleuse fin de journée.
Excellent. Merci beaucoup pour l'intérêt, Mathieu. Puis n'hésite surtout pas de me faire signe si jamais qu'il y a d'autres sujet que vous avez envie de discuter en ondes, puis je vais vous garder au courant des résultats de notre étude.
Certainement, écoute, merci.